Le journal Julie Pietri, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. 8h ou 10h demain, les résultats du bac affichés. Mais pour qui? Pour tous les lycéens, promet ce soir Jean-Michel Blanquer. Mais quels résultats? Ceux de l'épreuve ou ceux du contrôle continu alors que des professeurs correcteurs restent en grève? Point complet dans ce journal. Il n'y a pas peine plus lourde pour un prêtre. Le père Prénat, accusé d'agression sexuelle sur deux jeunes scouts, condamné par la justice de l'Église, renvoyé de l'État clérical en clair, il ne pourra plus ni porter l'habit, ni garder son titre, ni plus jamais célébrer messe et autres cérémonies. Dans ce journal également, un iPhone cadeau pour l'achat de prothèses auditives. Est-ce bien sérieux? Donald Trump, marqué par le défilé militaire du 14 juillet et qui tente donc d'importer le concept aux États-Unis pour la fête nationale. Le retour d'une série déjà culte aussi, Stranger Things saison 3, aujourd'hui en ligne sur Netflix. Et puis au téléphone sonne. Bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Julie. Eh bien, on va parler d'argent ce soir au téléphone sonne, de notre rapport à l'argent à l'occasion de la publication par le magazine Challenge du classement des 500 plus grosses fortunes de France. On parlera richesse, pauvreté, inégalité. On se demandera aussi pourquoi dans notre pays on a autant de mal à dire combien on gagne. Le numéro du standard pour nous appeler et pour nous dire tout ce que vous voulez bien nous dire, 01 45 24 7000.
France Inter. Le rituel est déjà d'ordinaire plutôt stressant. Se réveiller, petit déjeuner, estomac plus ou moins noué, avant de se mettre en route pour le lycée devant lequel son résultat au bac sera affiché. Mais cette année, interrogation supplémentaire avec des professeurs qui font de la rétention de copies pour dénoncer la réforme du bac et un ministre de l'Éducation qui crispe en disant qu'il y aura de toute façon un résultat, s'il le faut, basé sur le contrôle continu. La parole d'abord aux principaux concernés, à Jeanne, lycéenne à Valence, dans la Drôme, au micro de Victor Vasseur.
Je sais pas, franchement, on est un peu perdu. Bah déjà, on n'est pas sûr de les avoir, même si le ministre a dit qu'on les aurait. Mais je dis qu'ils sont bêtes de nous faire vivre ça, parce que eux aussi, ils sont passés par la terminale, ils ont connu le stress. Et je trouve que c'est pas gentil de leur part de nous faire vivre ça. J'ai la boule au ventre, moi, ça fait une semaine déjà, les mains moites et tout ça, tout le temps. À part les maths où c'était plus catastrophique, le reste, je pense avoir la moyenne. Alors que si on prend en contrôle continu pour la physique, par exemple, ce serait pas du tout bon, donc on croise les doigts.
Et que peut-on dire à 19h à ces lycéens? Bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Vous êtes au ministère de l'Éducation nationale où Jean-Michel Blanquer vient de prendre la parole.
Oui, Jean-Michel Blanquer a commencé par remercier tous ceux qui font bien leur travail. Le ministre minimise la situation et parle de quelques problèmes. 700 correcteurs sur 175 000 n'ont pas rendu leur copie ce soir. Jean-Michel Blanquer.
Il ne peut pas y avoir simplement une petite minorité qui cherche à imposer sa loi à l'immense majorité qui fait son travail et qui a le sens du service public. Ce que je garantis à tous les élèves, et je le garantis encore ce soir, bien sûr, c'est que tous les élèves de France qui ont passé le baccalauréat auront leurs résultats demain matin. C'est ce que le service public de l'Éducation nationale leur doit. Et des circonstances comme celle-ci sont l'occasion de rappeler l'importance de ce service public, sa qualité, la qualité des personnes qui le composent et l'importance du baccalauréat.
Alors, que va-t-il se passer pour les candidats? Demain, la très grande majorité, selon le ministre, aura des résultats définitifs, mais certains candidats verront sur les listes d'affichage la mention « résultat provisoire », le temps de récupérer leur copie d'examen. La meilleure note, donc soit entre le contrôle continu, soit la note d'examen final, sera conservée à la fin pour ne pas léser le candidat. Le ministre a bien insisté pour dire que si le résultat changeait, ce serait forcément dans un sens favorable. Jean-Michel Blanquer affirme que les notes sont données sur des bases sérieuses et qu'il n'y a pas de dévalorisation du bac malgré tout ce qui se passe dans les jurys.
Tous les lycéens auront donc leurs notes, promet Jean-Michel Blanquer. Mais dans quelles conditions, en fait, en coulisses, scène ahurissante, comme le raconte Pierre, professeur d'histoire géo, non gréviste, qui a vu en interne comment se déroule un jury. Dans le sien, il manquait toutes les notes d'anglais et voilà comment cette absence pourrait être compensée.
L'instruction qui nous a été donnée était de fabriquer une note, soit à partir du livret scolaire, soit en cas d'absence de livret scolaire, parce que ça arrive parfois, en regardant quelles étaient les notes de langue, donc dans l'autre langue, la langue, donc ça voulait dire en espagnol ou en allemand, et de donner à peu près la même note. Donc on a annoncé à la chef de centre qu'on allait examiner tous les dossiers de tous les élèves qui avaient toutes leurs notes, qu'en revanche, il ne serait pas possible de statuer sur ces cas-là, parce que ça constitue une rupture d'égalité, que nous, on ne voulait pas créer des notes, on va dire virtuelles, enfin, je ne sais pas comment les appeler, parce que, enfin, on n'était pas en tout cas dans la note écrite du bac. Donc, on a considéré que ce ne seraient pas les vraies notes de l'examen. On pense que la chef d'établissement va prendre la décision de rentrer ses notes elle-même pour pouvoir publier les résultats demain matin.
Pierre, professeur d'histoire géo avec toujours Sonia Princey, qui suivra bien sûr l'évolution de la situation et les recours qui pourraient être lancés à l'avenir. Il faut siffler la fin de la récré, trouver une solution, s'agace la FCPE, Fédération de parents d'élèves.
Ne l'appelez plus Père Prénat.
Bernard Prénat n'est plus prêtre, accusé d'agression sexuelle sur plus de 70 jeunes scouts dans la région de Lyon dans les années 70-80. Il vient d'être condamné à un renvoi de l'état clérical par la justice de l'Église. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Julie.
C'est la plus lourde peine possible.
Oui, renvoyé de l'état clérical, ce sont les mots du tribunal. Plus trivialement, on peut dire que Bernard Prénat, 75 ans, est désormais un prêtre défroqué. Le père Bruno Gonsalves est le président du tribunal ecclésiastique en charge de l'affaire.
Cela veut dire qu'il n'est plus compté parmi le clergé. Il ne fait plus partie des prêtres autour de l'évêque qui l'assistent dans le fait de célébrer les sacrements, dans les fêtes d'avoir des missions, des offices, des charges. Ça lui empêche de façon définitive toute fonction, tout office, toute responsabilité dans l'Église. La personne est renvoyée à une vie laïque.
Une décision exemplaire pour une affaire qui n'est pas tout à fait terminée. Les trois juges qui ont travaillé pendant presque un an sur l'affaire Prénat doivent désormais se pencher sur l'indemnisation des victimes.
Il y a une vingtaine de demandes de réparation, sachant que certaines demandes de réparation qui ne sont pas prescrites seront réglées par le juge étatique. Nous allons nous déterminer de façon prioritaire sur les demandes que le juge civil ne pouvait pas admettre parce qu'elles étaient prescrites alors qu'elles ne le sont plus devant notre tribunal.
La majorité des 70 victimes déclarées pourraient donc être indemnisées par la justice ecclésiastique si elles en font la demande, car 8 cas non prescrits seulement concernent la justice civile, sachant qu'on ne peut pas obtenir réparation deux fois, et que selon les barèmes de procès similaires en Belgique ou en Suisse, la moyenne des indemnisations oscille entre 15 000 et 20 000 euros.
Bernard Prénat qui doit également être jugé par la justice civile, procès pas avant la fin de l'année. Une famille qui ne paye pas son loyer et une expulsion qui se termine par la mort d'une personne, du père de cette famille. Ça s'est passé à Chambéry hier. Un huissier était venu expliquer à ces personnes qu'il ne pouvait pas rester ici. Des policiers étaient chargés de faire appliquer une décision de justice. Le père, 52 ans, se serait énervé, aurait fait une crise cardiaque avant de mourir peu de temps après. L'interpellation a-t-elle été violente? L'homme souffrait-il de problème cardiaque. L'inspection générale de la police nationale a été saisie et s'est rendue sur place aujourd'hui. Il a été l'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe, David Gras, condamné aujourd'hui à 15 ans de prison aux assises à Douai pour une série d'attaques, dont une à l'explosif à Orly. Un convoyeur de fonds avait été tué. Après 7 ans de cavale, il s'était rendu l'an dernier pour se constituer prisonnier et sa présence dans le box des accusés n'a pas permis de cerner sa personnalité. Cécile Bidot.
David Gras a accueilli le verdict sans ciller, comme retiré en lui-même. D'ailleurs, lors de sa dernière prise de parole ce matin, il avait dit « Évidemment, je suis coupable, mais j'ai l'impression d'avoir entendu l'histoire d'un autre ». Car le David Gras d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la photo diffusée dans le monde entier par Interpol lorsqu'il était parmi les 25 criminels les plus recherchés d'Europe. Lors de sa cavale, il s'est converti à la religion orthodoxe qui l'a aidé, a-t-il expliqué, à faire face à ses responsabilités et à se rendre l'été dernier. Durant tout le procès, son avocat s'est employé à démontrer qu'il n'était pas le cerveau de ces braquages, que lors de l'attaque du centre fort d'Orly, il était dans la rue à 300 mètres de là. On lui a construit une légende, a lancé Maître Goudard lors de sa plaidoirie, parce que pendant 7 ans, il était introuvable. Ses arguments semblent avoir convaincu les jurés en partie. David Gras est donc condamné à 15 ans de réclusion, c'est 10 de moins que lors de son premier procès en son absence. Lui, qui dit se sentir bien dans sa cellule comme dans un monastère, emporte avec lui le secret de sa cavale. Il n'en aura jamais dévoilé le lieu. À la cour d'assises du Nord, Cécile Bidot, France Bleu Nord pour France Inter.
Il est 19h09 sur France Inter, la suite du journal de Julie Pietri. On va en Méditerranée, Julie, où plus de 80 personnes sont portées disparues.
Les exilés partis de Libye à bord d'un canot pneumatique qui ont fait naufrage au large de la Tunisie, selon l'Office international des migrations. Deux d'entre eux rescapés ont pu raconter leur histoire. Donald Trump avait apprécié le 14 juillet 2017, il était alors à Paris, et avait assisté au défilé militaire, impressionné, comme il l'avait confié un peu plus tard à Emmanuel Macron, avec aussi la volonté de s'en inspirer. Et bien c'est aujourd'hui, à Washington, pour le 4 juillet, fête de l'indépendance aux États-Unis. Grégory Phillips.
quelques blindés amenés ici sur le National Mall, un défilé aérien durant lequel on devrait voir des chasseurs F-35 et l'avion présidentiel Air Force One survoler à basse altitude la capitale fédérale, et puis surtout un discours ce soir de Donald Trump sur les marches du mémorial de Lincoln, à l'endroit même où Martin Luther King avait prononcé en 1963 son I Have a Dream. On a monté un podium comme pour un meeting politique, et d'ailleurs les supporters du président ne s'y sont pas trompés, ils sont déjà des milliers ici sur l'avenue de la Constitution, casquette rouge, Make America Great Again sur la tête, et venu de tout le pays. En attendant le discours de ce soir, la foule assiste en ce moment à la parade plus traditionnelle, celle des policiers, des écoles. À proximité, des contre-manifestants sont en train de gonfler le Baby Trump, le fameux ballon gonflable en forme de Trump. Et l'opposition démocrate dénonce cette privatisation de la fête nationale. La candidate à la Maison Blanche, Kamala Harris, rappelle à Donald Trump que c'est aujourd'hui l'anniversaire des États-Unis et pas le sien. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Un dossier fête de l'indépendance à retrouver sur notre site internet franceinter.fr. C'est l'un des sites touristiques les plus visités au monde. L'Acropole d'Athènes, fermée au public durant plusieurs heures, aujourd'hui site trop chaud. En France, les écologistes demandent aux citoyens d'interpeller directement leurs députés via un jeu vidéo et une plateforme sur internet. Le but d'Europe Écologie Les Verts, mettre la pression sur les élus pour qu'ils ne ratifient pas le CETA, accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ratification prévue à l'Assemblée au cœur de l'été, le 17 juillet, Maxence Lambac.
Et oui, les écolos veulent surfer sur leur bon score aux européennes, rester sur le devant de la scène en relançant cette bataille contre le CETA. On l'avait un peu oublié car il est entré en vigueur il y a près de 2 ans, mais sa ratification par le Parlement est indispensable, autrement il sera abandonné ou au moins modifié. Yannick Jadot lance donc aujourd'hui un mini-jeu vidéo pour accrocher les jeunes, c'est à vous de jouer.fr, et un courrier type pour alerter députés et sénateurs.
Il faut que les citoyens se mobilisent parce que sous la pression des citoyens qui ont régulièrement exprimé à plus de 80% qu'ils étaient opposés au CETA, eh ben je peux vous dire que les députés vont réfléchir à 2 fois avant de ratifier un accord qui participe de l'emballement climatique, de la mondialisation de la malbouffe, de la souffrance animale et de la disparition des paysans.
Et ce à quoi le gouvernement répond que toutes les garanties ont été apportées, que ce traité respecte l'environnement et les équilibres agricoles. Il y a en fait très peu de chances que ce texte ne soit pas ratifié.
Il y a une majorité en marche solide, mais si elle était aussi solide et s'ils étaient aussi convaincus que le CETA est formidable, je pense que le gouvernement n'aurait pas attendu la torpeur de l'été et n'aurait pas attendu après les élections pour mettre ce débat à l'Assemblée nationale.
En réalité, les écolos préparent le terrain, car la vraie grande bataille qu'ils comptent mener, c'est celle contre le Mercosur, nouveau traité de libre-échange en cours de négociation entre l'UE et 4 pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Cette campagne, c'est donc un tour de chauffe, une première alerte envoyée à une majorité de plus en plus travaillée par les questions écologiques.
Maxence Lambrec du service politique de France Inter. La canicule n'est plus, mais la circulation différenciée revient à Lyon à partir de demain à cause d'un pic de pollution à l'ozone. Permission de rouler uniquement pour les véhicules équipés d'une vignette critère 0, 1, 2 ou 3. À noter que limitation de vitesse et circulation différenciée sont maintenues à Marseille jusqu'à lundi matin. 500 postes en moins à Canal+ en France, le groupe de télévision qui perd des abonnés, qui est concurrencé sur le sport par des chaînes comme Bein et puis sur le cinéma et les séries aussi par Netflix et autres Amazon Prime. Le groupe va donc présenter la semaine prochaine un plan de départ volontaire aux représentants du personnel. 2 appareils auditifs, un iPhone offert. Voilà une offre pour le moins surprenante, mise en ligne sur le site internet d'une enseigne d'audioprothèse Idéal Audition. Alléchant, certes, mais est-ce que ça ne reviendrait pas à faire financer cet iPhone cadeau par la Sécurité sociale et les mutuelles, Fabien Cazot ?
C'est du moins ce que dénonce le syndicat national des audioprothésistes, selon son président Louis Godineau. Il s'agit là d'un curieux mélange des genres.
C'est une profession paramédicale. Donc si demain votre kiné ou votre infirmier vous disait qu'au bout de 10 séances vous aviez un cadeau, qu'est-ce que vous en penseriez ? Ce que nous craignons, nous, c'est que ce soit des opérations bassement commerciales et que le suivi du patient se fasse moins bien.
Au contraire, affirme Idéal Audition, offrir un smartphone avec des audioprothèses, c'est un plus pour les patients. Ce sont des appareils connectés avec des applications qui permettent notamment d'améliorer les réglages des appareils. Une amélioration en aucun cas payée par de l'argent public, insiste le fondateur de l'enseigne, Dan Bétache.
Il faut bien distinguer deux choses. Il y a la vente d'appareillage. C'est cet appareil qui est pris en charge par les organismes de sécurité sociale. L'iPhone n'a rien changé à ça puisque le prix de ce smartphone n'a pas été intégré aux appareils. C'est juste qu'on a pris sur nos marges pour justement rendre cet accessoire disponible auprès de nos patients.
Ce qui est sûr, c'est que le débat déontologique fait rage au sein de la profession des audioprothésistes. Le ministère de la Santé ne s'est pour l'instant pas exprimé sur la question.
Merci Fabien Cazot. À quand la reprise du trafic des trains entre France et Italie via Modane après la coulée de boue de mardi en Savoie sur les rails? SNCF prudente aujourd'hui, mais probablement dans les premiers jours d'août.
Le départ du Tour de France, c'est samedi à Bruxelles, mais déjà de l'effervescence sur la grande place de la capitale belge.
Avec la présentation des 22 équipes, 176 coureurs, ça s'est passé cet après-midi devant une foule compacte, Fabrice Rigobert.
Oui, foule compacte, effectivement, réunie sur cette grande place. Difficile de dire exactement combien de personnes se sont déplacées là où les Belges, troisième du mondial en Russie l'année passée, étaient venus à 20 000 pour applaudir les Diables Rouges. Plusieurs milliers de personnes sont encore massées au moment où la formation Ineos, celle de Geraint Thomas, d'Egan Bernal, le Colombien, jeune Colombien de 22 ans, qui fait partie des favoris, eh bien, sont encore les coureurs d'Ineos sur cette grande scène qui a été installée et qui a tant un seul homme, une véritable légende. Il s'agit d'Eddy Merckx, 74 ans, quintuple vainqueur du Tour de France, qui va être fêté, lui qui est adulé par le public, des enfants comme des parents, des grands-parents qui sont tous unis, des Flamands, des Wallons. Il a cette particularité d'unir tous les Belges, lui qui a remporté son premier Tour de France pour la première fois. Donc c'était en 1959, il y a 50 ans. Et pour le centenaire du maillot jaune, il va être une nouvelle fois fêté ici sur cette grande place où il a célébré nombre de ses succès. Eddy Merckx qui va monter sur le podium dans quelques instants. Après cette présentation de la formation Ineos, le public qui a longuement applaudi les 176 coureurs qui ont défilé sous le soleil de cette grande place classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Fabrice Rigobert avec Sandrine Malon à la technique. Ne pas faire d'efforts, ne pas être assez combatif, ne pas avoir très envie de jouer finalement. Ça se paye à Wimbledon, 50 000 euros d'amende, c'est ce que va devoir débourser l'Australien Bernard Tomic, 26 ans, ou plutôt remboursé parce que c'est la somme que le tournoi lui a donnée pour participation. Pourquoi donc? Parce que lors du premier tour, il a perdu en moins d'une heure, en 58 minutes contre Joe Wilfried Tsonga, le match le plus court de Wimbledon depuis 15 ans. Tomic qui peut encore faire appel à lui, expliquer qu'il avait joué le mieux qu'il pouvait. C'est une série qui, comme d'autres, à ses fans, ses addicts, ceux qui attendent chaque nouvel épisode avec apathie et impatience. Stranger Things revient sur Netflix aujourd'hui. À l'origine, l'histoire d'un garçon qui disparaît dans une petite ville. S'en suivront expériences monstres et forces surnaturelles. Et la nouvelle saison n'est pas en reste. Alexandra Hakoun.
Quand on retrouve toute la bande de Stranger Things, l'été 1985 touche à sa fin à Hawkins, Indiana. Les enfants ont grandi, désormais Mike et Eleven passent leur journée à se bécoter, ce qui rend dingue Hopper, le père adoptif d'Eleven.
Ils passent carrément trop de temps dans cette chambre, tous les deux.
Tout ce qu'ils font, c'est se rouler des patins, non?
Oui, mais ils le font sans jamais s'arrêter. T'entends? C'est pas normal.
T'as pas le droit de décider, ce sont pas des gamins, ce sont des ados maintenant.
Et elle est là, la trame de sa troisième saison, le revoir à l'enfance, avec éveil des sentiments pour les uns, peur de grandir pour les autres.
Tu t'attendais à quoi? À ce qu'on ait jamais de petite copine? À ce qu'on reste toute la journée dans mon sous-sol à jouer pour le reste de nos vies? J'y croyais, oui.
Une mélancolie distillée au fil d'une histoire, comme d'habitude relativement alambiquée, mais qu'importe, le plaisir de Stranger Things est ailleurs, dans cette esthétique années 80 qui pique les yeux, avec un goût prononcé pour les coupes de cheveux improbables et le fluo, sans oublier les monstres qui bavent, avec en supplément une histoire de zombies et de rats qui explosent. Végétariens s'abstenir, les restes de rats se regroupent pour former un monstre aux allures de steak tartare. Les frères Duffer adorent jouer avec les codes du film d'horreur. Quant aux méchants, cette fois-ci ils sont russes. Et c'est toujours aussi jubilatoire malgré une fin plus triste que d'habitude.
Stranger Things saison 3 en ligne aujourd'hui. Tout de suite la météo.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
De Météo France. Du soleil et des températures en hausse demain.
Oui, soleil déjà bien installé le matin, juste quelques nuages bas vers le Pays Basque, vers le Roussillon, mais vite oublié. Température minimale entre 12 et 23 degrés, 12 à Amiens, 16 à Paris, 22 à Agen et 23 degrés à Nice.
Et l'après-midi, même programme.
Toujours beaucoup de soleil en effet. Deux bémols en montagne, quelques nuages joufflus avec une averse possible. Près de l'océan, des nuages élevés viendront parfois blanchir le ciel avec une ondée ici ou là, parfois un coup de tonnerre en soirée. Les thermomètres grimperont entre 24 et 38 degrés l'après-midi, 24 à Saint-Malo, à Deauville, 27 à Cambrai, 31 degrés à Paris, Nancy ou Nice, 36 à Limoges, Clermont-Ferrand et Montélimar, 37 à Agen, jusqu'à 38 à Toulouse. Le week-end sera plus instable, parfois orageux entre le Poitou, le Limousin, le Jura et les Alpes, mais les températures commenceront progressivement à baisser par l'ouest.